serai triste comme un saule quand le Dieu qui partout me suit.
Bonjour à toutes et à tous, nous avons rendez-vous cette semaine avec Georges Brassens, interprété par Isaac Atiya. Isaac, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous allez donner un concert ce soir à l'Institut français de Jérusalem à 19h, avec des chansons très appréciées dans le monde francophone, puisqu'il s'agit du répertoire de Georges Brassens. D'où vient votre intérêt pour ce chanteur ?
Écoutez, c'est un peu multiple. Bon, je pense que d'abord Brassens fait partie de toute l'histoire et de toute la culture de tout Français, qu'il aime ou qu'il n'aime pas. Tout le monde connaît Brassens. Enfin, en tout cas, je dirais presque de toutes les époques, puisqu'il y a des chanteurs comme Maxime Le Forestier qui l'ont même rendu populaire pour les jeunes aujourd'hui. Donc c'est un intérêt général comme ça. Et puis, si vous voulez, il y a une dizaine d'années, je me suis intéressé particulièrement à son répertoire que je n'avais pas abordé parce que, contrairement à ce que les gens pensent sur le plan musical, c'est assez ardu et assez inattendu au niveau des accords, des harmonies. Et donc, on peut chanter Moustaki, on peut chanter Le Forestier, des tas de chanteurs sans vraiment pénétrer dans l'univers musical de Brassens. Donc, c'est par l'univers musical et ensuite, j'ai été séduit par l'énormité de la poésie qui se trouve dans la moindre phrase de chaque chanson de Brassens.
Mmh. Ici, en Israël, a-t-il marqué une génération de son empreinte, des gens ? Comment est la réception de Brassens en Israël, ou comment a-t-elle été ?
Eh bien, écoutez, on peut dire comme ça qu'il y a deux époques. Il y a l'époque des contemporains de Brassens. Vous savez que Brassens se traduit dans 25 à 30 langues dans le monde, des langues nationales et des langues régionales. Et donc ici en Israël, il y avait un chanteur très très connu qui a donc fait toute une génération d'enfants chanteurs aussi, c'est Yossi Banaï. Et Yossi Banaï a traduit et fait traduire par Naomi Shemer et d'autres très grands poètes israéliens une vingtaine de chansons de Brassens de l'époque. C'est-à-dire que dans les années 60, alors que Brassens était célèbre en France, Yossi Banaï chantait Brel et il chantait Brassens en Israël. Donc il y a, si vous voulez, toute une série d'Israéliens qui ont 60 ans, 50 ans, qui ont connu Yossi Banaï, qui ont connu les chansons de Brassens à travers les traductions de Yossi Banaï. Et ça, c'est donc, si vous voulez, tout un public. Bon. Et puis, il se passe maintenant au niveau contemporain, donc Brassens est mort depuis 34 ans, mais en Israël, il se passe un regain d'intérêt pour ce qu'ils appellent chansonymes, c'est-à-dire des chansons à texte, aussi bien des auteurs de chansons russes ou de chansons françaises qui ont cette tradition d'être des poètes chantants. Ce qui ne se trouve pas... c'est pas évident dans le monde anglo-saxon, par exemple. Et donc, donc il y a un intérêt pour les chansons de Brassens, même aujourd'hui, même des contemporains.
Mmh. Oui, vous avez rappelé que Brassens est décédé il y a 34 ans.
Oui.
Comment, votre avis, c'est une question un peu difficile, comment verrait-il le monde aujourd'hui ? Quelle opinion aurait-il du monde, ou d'Israël, par exemple ?
Parce que, il y a un chanteur français qui s'appelle Alexis Hachka, qui est un chanteur contemporain maintenant, un jeune, qui fait depuis un an et demi tourner en France un spectacle qui s'appelle Georges et moi. Et c'est justement Brassens regardant le monde d'aujourd'hui et s'interrogeant par rapport à ce qui se passe. Pour Israël, je ne sais pas du tout. Il ne s'est jamais prononcé sur Israël. Sa compagne était juive. Pendant 34 ans, il a vécu avec une compagne juive, mais elle n'était pas du tout religieuse ou liée à la communauté, et il ne s'est pas vraiment exprimé sur le sujet. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Brassens serait très, perturbé par la montée de la barbarie et par le terrorisme. Ça, c'est certain, parce qu'il est à la guerre d'abord. Mm-hmm. Et puis, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, en fait, l'œuvre de Brassens est un petit peu un rempart contre la barbarie. Parce que ce que Brassens ne supportait pas, c'est les gens qui pensaient par les idées des autres et qui utilisaient des formules toutes faites, ce qu'on appelle en fait dans la langue générale la propagande, la langue de la propagande. C'est une langue qui, au lieu de faire réfléchir les gens et de leur donner la liberté d'avoir beaucoup de sens dans un seul mot, réduit les choses à des réflexes, à des slogans. Et c'était le combat principal de Brassens. Il appelait ça la connerie humaine, mais c'est en fait la bêtise. C'est-à-dire cette sorte de lavage de cerveau collectif qui fait que les gens ne se rendent même plus compte qu'ils ne sont pas en train de penser par eux-mêmes. Et je pense que si Brassens avait un combat, ou en tout cas était interpellé par quelque chose, ce serait par rapport à ça, au fait qu'on doit garder sa liberté de penser. Et c'est pas de la science-fiction, enfin, ce que je dis, parce que je sais que les gens, les chanteurs qui chantent Brassens aujourd'hui, beaucoup, c'est cet aspect-là de richesse du texte, du sens, de la signification de la langue humaine, qu'ils mettent en avant. Et c'est très contemporain. Vous savez, on vit dans un monde où on a été bercé par des mélodies, par des chansons un peu insipides. De revenir à une sorte de, je dirais pas une réflexion intellectuelle, mais une réflexion émotive, vous voyez, d'avoir des images poétiques qui vous font voir le monde un petit peu avec un petit décalage comme ça, et qui vous permettent de vous interroger vous-même. Je crois qu'aujourd'hui, c'est encore très très actuel.
Oui, donc la poésie sera présente ce soir à Jérusalem, comme je l'ai dit. Est-ce que vous avez d'autres dates dans votre tournée, et est-ce que vous avez l'occasion de vous produire en France également ?
Alors, il n'y a pas de... Oui, pardon. Ce soir, je me produis donc à Jérusalem. Le 17, je me produis à l'espace francophone de Ashdod, le 17 mars. Il y a d'autres dates, mais elles sont encore elles sont en projet. Ce sera vers l'été. Enfin, il y a d'autres dates en Israël.
D'accord.
Maintenant, pour se produire en France, c'est pas encore bon. C'est au niveau des contacts, si vous voulez, des choses qui se font sur du long terme. Parce qu'en fait, déjà, je pense que j'ai un gros travail. D'abord au niveau de la communauté francophone en Israël. Et même de ceux qui, c'est-à-dire des nouveaux Zolim, des nouveaux immigrants, mais même de ceux qui sont là depuis très longtemps, qui ont vraiment une soif de passer une soirée à rire, à réfléchir, à retrouver l'essence de la culture française, mais dans son côté le plus beau, parce que je crois que en Israël, on aime la culture française, même si on n'est pas du tout d'accord avec la politique française, même si cette politique change selon les uns et les autres, mais en général. Il n'empêche que la culture, profondément la culture française, et Brassens la porte complètement. Ça, il y a une grande demande. Et puis aussi, je commence à avoir des publics non francophones en Israël qui veulent découvrir Brassens, qui veulent retrouver des fois Brassens et qui aiment ne serait-ce que la sonorité ou la joie de ces mélodies, des choses comme ça. Et donc, pour l'instant, je me concentre sur ce public que j'aimerais déjà toucher. Et la France, c'est autre chose, c'est une autre configuration, si vous voulez. Ce sera à voir après.
Pour le mélange des langues, par exemple, est-ce que vous oseriez chanter Brassens en hébreu à la manière de Yossi Banaï ?
Pas du tout.
Pas du tout.
Pour mille raisons. D'abord, la première raison, c'est que Yossi Banaï, il a chanté à sa manière, mais qui était très proche de Brassens. Il avait même la même sorte de voix, même tessiture, et même genre d'approche de la vie, alors que moi, je chante Brassens avec mon approche, bien que je sois très, très fidèle au texte et aux mélodies. Mais sur les arrangements, sur ce que je mets en avant, c'est moi, d'abord, donc je n'irai pas dans cette direction. Maintenant, quant à l'hébreu, si vous voulez, d'abord, vous savez, moi je suis là depuis 20 ans en Israël, donc j'ai acquis la langue hébraïque pour communiquer, mais je n'ai pas du tout je ne vibre pas, c'est-à-dire j'ai pas la... Je vibre un peu quand j'entends le Tanakh, vous voyez, quand j'entends la paracha, mais je pense que pour le chanter en hébreu, il faut vraiment que, surtout Brassens, il faut qu'on a envie de rire, envie de s'amuser, envie de voyager à chaque intonation et à chaque syllabe qui nous envoie vers une imagination, sinon c'est plat, sinon on n'arrive pas. Et ça, je ressens qu'en français. Donc, pour l'instant, c'est pas. Peut-être que ça viendra, je ne sais pas. Je sais que, par exemple, dans la non-demande en mariage, il y a certaines petites parties de traduction qui me touchent, qui commencent à me toucher. Alors bon, peut-être que ça viendra, mais enfin, C'est pas encore le moment.
D'accord. Alors pour terminer, pouvez-vous nous citer quelques chansons qui font partie de votre récital et peut-être en extraire une qui vous plaît particulièrement pour accompagner notre interview?
Écoutez, les chansons que je sens sont des chansons qui sont en grande majorité connues parce que justement c'est pour un public qui voudrait les retrouver, avec des petites chansons moins connues. Donc je commence par une chanson qui n'est pas connue, qui s'appelle Le Testament de Brassens, qui est très très belle, si vous voulez illustrer l'émission avec Le Testament, très peu connue, qui parle de son amour de la vie, en quelque sorte, par ce testament, où il fait l'école buissonnière, il n'est pas pressé de rejoindre le cimetière, etc. Donc, mais j'aborde des chansons comme Les Copains d'abord, Auprès de mon arbre, enfin des chansons vraiment... vous voyez, je fais une sorte de panachage. Mmh. Et c'est aussi un moyen de pénétrer dans l'univers de Brassens, dans ses valeurs, dans sa vision du monde. Donc, par exemple, il y a une chanson qui est aussi très très belle, qui est La Non Demande en mariage, que je fais, où je parle de cette fraîcheur que Brassens veut toujours conserver. Il a trouvé le moyen de conserver la fraîcheur de sa relation avec une femme en ne l'épousant pas. Et j'explique aussi qu'on peut aussi épouser sa femme et rester... elle peut rester sa fiancée, c'est pas incompatible. Donc on essaye aussi de faire un pont, vous voyez, entre la culture française et la culture hébraïque. Vous voyez, par exemple, pour la non-demande en mariage, il dit dans le refrain « Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin ». Oui. En français, graver, c'est quelque chose de très sérieux. Par contre, dans la culture juive, dans la tradition juive, graver, ça se dit « harout ». Et les sages nous disent, quand on parle des 10 commandements qui sont gravés, ne lisez pas harout, lisez chérout, liberté. Et donc, c'est une vision complètement nouvelle, c'est-à-dire que un contrat, c'est pas quelque chose qui obligatoirement nous rend prisonniers, mais ça peut aussi nous donner une certaine liberté. Alors je fais ce pont, vous voyez, entre notre univers, la culture juive, et la littérature française et l'univers de Brassens.
Bien. Merci beaucoup, Isaac. À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Je serai triste comme un saule quand le Dieu qui partout me suit me dira la main sur l'épaule, va-t'en voir là-haut si j'y suis. Alors du ciel et de la terre, il me faudra faire mon deuil. Est-il encore debout le chêne ou le sapin de mon cercueil? Est-il encore debout le chêne ou le sapin de mon cercueil? S'il faut aller au cimetière, je prendrai le chemin le plus long. Je ferai la tombe buissonnière, je quitterai la vie à reculons. Tant pis si les croque-morts me grondent, tant pis s'ils me croient fou allié. Je veux partir pour l'autre monde par le chemin des écoliers. Je veux partir pour l'autre monde par le chemin des écoliers. Avant d'aller compter fleurettes aux belles âmes des damnés, je rêve d'encore une amourette, je rêve d'encore m'en juponner. Encore une fois dire je t'aime, encore une fois perdre le nord. En effeuillant le chrysanthème qui est la marguerite des morts. En effeuillant le chrysanthème qui est la marguerite des morts. Dieu veuille que ma veuve s'alarme en enterrant son compagnon, et pour lui faire verser des larmes, il n'y ait pas besoin d'oignons. Qu'elle prenne en seconde noce un époux de mon acabit, il pourra profiter de mes bottes et de mes pantoufles et de mes habits. Il pourra profiter de mes bottes et de mes pantoufles et de mes habits. qu'ils boivent mon vin, qu'ils aiment ma femme, qu'ils fument ma pipe et mon tabac, mais que jamais mort de mon âme, jamais ils ne fouettent mes chats. Quoique je n'ai pas un atome, une ombre de méchanceté, s'ils fouettent mes chats, y a un fantôme qui viendra le persécuter. S'ils fouettent mes chats, y a un fantôme qui viendra le persécuter. Ici gît une feuille morte, ici finit mon testament. On a marqué dessus ma porte, fermée pour cause d'enterrement. J'ai quitté la vie sans rancune, j'aurai plus jamais mal aux dents. Me v'là dans la fosse commune, la fosse commune du temps. Me v'là dans la fosse commune du temps.